question dont plusieurs aimeraient connaître la réponse. Où est le berceau des fausses religions? Le grand livre de Dieu va nous éclairer à ce sujet aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on continue aujourd'hui dans le livre de l'Apocalypse. Et je suis certaine que plusieurs d'entre vous sintonisez chaque jour avec beaucoup d'intérêt pour connaître la suite de cet enseignement du dernier livre de la Bible. Alors ne tardons pas. Allons-y tout de suite avec nos questions. Quand le livre de l'Apocalypse nous parle de ceux qui sont vierges, est-ce qu'on doit prendre cette virginité dans le sens littéral ou dans le sens spirituel? De qui ce livre parle-t-il quand il mentionne ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau? Qui sont les messagers de l'Évangile présentement? Qui seront les messagers de l'Évangile pendant les temps catastrophiques de la grande tribulation? Où est le berceau des fausses religions? Est-ce que ce seront les ravages de Satan ou le jugement de Jésus-Christ sur cette terre qui causeront la grande tribulation? Demeurez des nôtres. Le pasteur Régent Joly a sorti sa Bible et il est sur le point de nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur, merci pour tout ce bon enseignement que tu nous donnes dans ce livre de l'Apocalypse. Merci pour toutes les bonnes choses que tu réserves pour tes enfants à travers ces catastrophes. Merci, Seigneur, parce que tu nous gardes dans ta main puissante. On a besoin de toi, mon Dieu. Parle à nos cœurs aujourd'hui. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, nous poursuivons notre étude du livre de l'Apocalypse au chapitre 14. Blanc comme la neige. Lisons Apocalypse chapitre 14, versets 4 et 5. « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. » La question est de savoir si cette virginité est littérale ou spirituelle. Je pense que elle est les deux en même temps. La grande tribulation est une période caractérisée par une souffrance et une oppression inégalées. Les temps anormaux exigent souvent un comportement et même un état anormal. En temps de guerre, par exemple, le statut d'homme marié n'est pas l'idéal. Certains soldats partent à la guerre pour ne plus jamais revenir. Les enfants grandissent sans jamais avoir connu ou même vu leur père. La période de la grande tribulation sera tellement éprouvante qu'elle fera paraître toutes les autres guerres comme de la rigolade. Un temps où la moitié de la population sur la terre mourra et où le sort des morts paraîtra plus enviable que celui des vivants. Pour cette raison, ces individus n'étaient pas mariés. Au temps de l'exil babylonien, la souffrance était grande au pays d'Israël. Le prophète Jérémie vivait dans cette période critique et à cause de cela, Dieu lui a défendu de se marier, comme on peut le voir dans Jérémie chapitre 16, les versets 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille, car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantées. » et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine. Et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus lui-même met en garde celles qui devront allaiter pendant la grande tribulation. Entre autres, dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 24, verset 19. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Nous vivons dans un temps de relative stabilité. Or, l'histoire et la géologie nous enseignent que ces temps de calme sont l'exception plus que la norme. Au temps de la grande tribulation, l'ordre de Dieu donné à Noé de multiplier et de remplir la terre ne s'appliquera peut-être pas forcément à un monde qui approche de sa fin. Et comme nous le verrons plus loin dans notre livre, la fin de la grande tribulation signalera d'une certaine manière la fin du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. La grande tribulation sera bien sûr marquée par une obsession sexuelle encore plus grande qu'aujourd'hui, si une telle chose est possible. Mais les 144 000 seront préservés des péchés de cette période. Si l'on considère l'adultère dans son sens spirituel, nous voyons dans l'Ancien Testament que l'idolâtrie était vue comme de la fornication spirituelle. L'exemple classique se trouve au 16e chapitre d'Ézéchiel. Nous y trouvons des accusations sévères de Dieu, portant sur l'idolâtrie du peuple d'Israël, qui est comparée à la prostitution et à l'adultère. Cela signifie donc que pendant la grande tribulation, les 144 000 se seront également abstenus d'adorer la bête et son image. L'expression « ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges » fait probablement plus référence à la chasteté au sens littéral du mot. Les premiers fruits de la récolte. Ils sont aussi des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Pour nos nouveaux auditeurs, rappelons que les prémices sont les premiers fruits d'une récolte, ou un premier-né d'un troupeau offert à Dieu. Il est peu probable que ce passage s'applique à l'Église, car si jamais l'Église se trouve sur terre en ces temps-là, ce ne sont pas les premiers fruits qui seront présentés, mais plutôt les derniers. Il s'appliquerait mieux à Israël, car, jusqu'à la grande tribulation, ce peuple ne rapporte pratiquement pas de fruits, car il a rejeté son Messie. On se rappelle qu'à sa première venue, Jésus avait comparé Israël à un arbre stérile. Or, dans l'épître de Paul adressée aux Romains, chapitre 11, les versets 15 et 16, l'apôtre propose l'explication suivante concernant l'endurcissement temporaire d'Israël. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Israël est identifié comme les prémices qui pourraient bien être les 144 000 Israélites de la grande tribulation. Je suis d'avis qu'ils occuperont une place unique dans le royaume du millénium. Ils seront sans doute l'avant-garde de l'agneau quand il reviendra établir son royaume, comme nous le verrons au chapitre 19. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Signifie qu'ils n'ont pas participé au grand mensonge de la bête lorsqu'elle a utilisé des simulacres de miracles pour épater la galerie. On se rappelle que le Seigneur Jésus avait prédit que, s'il était possible de tromper les élus, ils seraient trompés par la bête, mais ce n'est pas le cas, car ils sont irréprochables. Sont-ils irréprochables parce qu'ils ont été purifiés par la grande tribulation? Non, ils le sont parce qu'ils sont revêtus de la justice de Jésus-Christ. Et si vous l'avez reçu personnellement comme votre sauveur, c'est grâce à cela que vous irez certainement au ciel, et non pas à cause de vos bonnes actions. Pour ma part, je sais que si ma place au ciel est prête, ce n'est pas parce que je suis une bonne personne, parce que je ne suis pas si bon que cela. D'ailleurs, le chrétien ne se fait pas d'illusions sur sa bonté. Il sait trop bien qu'il doit son salut à la grâce de Dieu, au sacrifice de Jésus sur la croix, et non à ses mérites personnels. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. La proclamation de l'Évangile éternel. Lisons Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. » Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. un autre ange, dénote une modification radicale du protocole de communication employé par Dieu dans ses rapports avec la Terre. Les anges semblent donc retrouver le rôle de messagers qui était le leur à l'époque de l'Ancien Testament. En ce temps-là, les anges, tout autant que les hommes, étaient affectés à cette tâche. Cet ange est le premier d'une série de 6 autres anges. Les autres sont mentionnés au verset 8 et 9, verset 14, ainsi que les versets 17 et 18. Il y a 2000 ans, l'Évangile a été remis entre les mains des hommes afin qu'ils le répandent aux quatre coins du monde. Ils en sont les seuls messagers. Les anges auraient aimé répandre le message de la bonne nouvelle, mais ils n'en ont pas reçu la permission. Au début de la grande tribulation, les hommes sont encore les messagers de l'Évangile, comme les 144 000 le démontrent. Les anges les ont-ils remplacés au plus fort de la persécution? Nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude, mais rappelons que même les deux témoins dotés de pouvoirs surnaturels n'ont pas pu tenir devant Satan. Ils ont été enlevés du lieu démonisé qui était devenu la terre. Pendant les temps catastrophiques de la grande tribulation, les anges seront peut-être les seules créatures aptes à livrer au monde le message de Dieu. Le fait d'être indestructible constitue un avantage certain. Cet ange vole au milieu du ciel pour annoncer l'Évangile aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Pendant très longtemps, ce verset semblait totalement absurde et certains critiques de la Bible s'en moquaient ouvertement. Depuis ce temps, la télévision par satellite est apparue. Un bulletin de nouvelles peut être entendu presque simultanément par tous les habitants de la Terre. Cet ange servira donc de station de transmission volant au milieu du ciel pour annoncer le message de l'Évangile à travers le monde entier. Un évangile éternel. L'évangile vient de deux mots grecs qui signifient « bonne nouvelle ». L'ange apportera-t-il donc de bonnes nouvelles à un monde qui en aura grand besoin? Oui et non. Il portera une bonne nouvelle pour les enfants de Dieu, mais une mauvaise nouvelle pour les incrédules. « Craignez Dieu », précise le texte, constitue le message de l'évangile éternel. En fait, il constitue le message de l'Évangile depuis le tout début. Mais l'Église n'a pas vraiment transmis le message de l'Évangile, car la plupart des gens aujourd'hui prennent Dieu pour une espèce de gros papa gâteau, trop bon pour créer l'enfer afin d'y envoyer les âmes rebelles. Pourtant, Dieu juge ses créatures, comme nous avons pu le voir maintes fois pendant notre parcours à travers la Bible. L'auteur du livre des Proverbes affirme que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. L'ange dit au peuple de Dieu, « Réveillez-vous, vous devez craindre Dieu. Il vous a sauvé par sa grâce, mais il s'apprête à juger tous les hommes. » Il s'agit du dernier appel à la repentance provenant de Dieu avant que Jésus-Christ ne revienne remplir ses fonctions de juge. Le jugement sur Babylone prononcé. Apocalypse, chapitre 14, verset 8. Un second ange suivit en disant, « elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » J'aimerais vous recommander un vieux classique de littérature chrétienne. Il s'agit du livre « Les deux Babylones » d'Alexander Hyslop. Il est particulièrement opportun de le lire à notre époque, même s'il a été écrit il y a plus d'un siècle. Il nous révèle que Satan a fait de Babylone ses quartiers généraux depuis le tout début. L'idolâtrie a commencé à Babylone. Sémiramis était l'épouse de Nimrod. Certains experts pensent qu'elle était aussi sa mère et qu'elle a marié son propre enfant. Elle était la reine de Babel, qui est ensuite devenue Babylone. Elle a imaginé une jolie petite légende où elle sortait d'un œuf sur la rivière Euphrate. Elle a brisé l'œuf de l'intérieur. Elle en est sortie à sa taille adulte. Ce système d'idolâtrie s'est perpétué avec peu de changements dans les diverses mythologies subséquentes. Les amateurs d'art se rappelleront entre autres la naissance de Vénus de Botticelli. Le culte des Sémiramis a introduit le principe féminin de la divinité. Babylone est donc devenue le berceau des fausses religions. Elle est tombée, Babylone la Grande. Le deuxième ange fait irruption sur la scène et il annonce un événement à venir comme s'il avait déjà eu lieu. Dans le texte original grec, « elle est tombée » se conjugue au temps aoriste. Cela indique la certitude de cette parole prophétique de Dieu. Comme on dit dans le langage de tous les jours, c'est comme si c'était déjà fait. La ville de Babylone est présentement en ruine depuis très longtemps. Elle sera, selon toute évidence, reconstruite pendant la Grande Tribulation, mais pas au même endroit. Les auditeurs de longue date se rappelleront qu'en étudiant le livre d'Ésaïe, au chapitre 13, j'ai fait mention de ce sujet. Babylone sera reconstruite, mais pas sur le même site que l'ancienne Babylone. Le jugement de Dieu viendra contre elle, tel qu'il est prédit dans le prophète Ésaïe. Cette capsule prophétique ne s'est pas encore accomplie. L'idolâtrie de Babylone sera une intoxication divine qui fascinera le monde entier. Déjà aujourd'hui, nous assistons à une multiplication de cultes dédiés à Satan, à la déesse mère et à la sorcellerie, sous son appellation actuelle de Wicca. Au temps de l'Ancien Testament, le prophète l'a décrit ainsi, selon Jérémie, chapitre 51, verset 7. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or, qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations étaient comme en délire. Si nous pouvions nous éloigner suffisamment de l'attraction terrestre et regarder en arrière, nous serions peut-être très déçus de l'humanité et des nations du monde. Nous pouvons lire dans Ésaïe chapitre 13, verset 11. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Ces méchancetés font descendre la colère de Dieu sur la terre. Le prophète Jérémie s'étend sur le sujet au 25e chapitre de son livre, versets 15 à 26. Terminons par une dernière prophétie sur la chute de Babylone, trouvée dans le prophète Ésaïe, chapitre 13, verset 19. « Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. » Nous verrons bientôt comment Dieu jugera Babylone en deux étapes. Il jugera d'abord Babylone, la religieuse, au chapitre 17, et Babylone, la commerciale, au chapitre 18. Le jugement sur les hommes marqués par la bête. Il est probablement justifié de supposer que les gens qui survivront à la grande tribulation le feront parce qu'ils auront accepté de recevoir la marque de la bête. Toutefois, une partie de la grande tribulation n'est pas causée par les ravages de Satan sur la terre, mais par le jugement de Jésus-Christ sur cette terre. Il interviendra personnellement et directement pour mater la rébellion orchestrée contre lui sur la terre. Terminons notre lecture pour aujourd'hui en lisant Apocalypse chapitre 14, les versets 9 à 12. Et un autre, un troisième ange l'y suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Nous trouvons ici une référence à un groupe de personnes qui gardent les commandements de Dieu, c'est-à-dire la loi de l'Ancien Testament. Cette section montre clairement que personne ne pourra assumer une position de neutralité pendant cette intense période d'accablement sous le règne de la bête. Tous les habitants de la terre porteront une marque qui indiquera leur allégeance soit à Dieu, soit à la bête. Au chapitre 13, nous avons vu que ceux qui refusaient de recevoir la marque de la bête sur leur corps le faisaient au péril et même au prix de leur vie. Ils s'exposaient à mourir de faim, puisqu'ils ne pouvaient plus rien vendre ou acheter. D'autre part, ceux qui acceptaient de recevoir cette marque attiraient sur leur tête la colère de Dieu. Le vin de la fureur de Dieu est une image utilisée auparavant dans l'Ancien Testament. Nous pouvons lire, dans le psaume 75, verset 9, « Il y a dans la main de l'Éternel une coupe, où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. » Les prophètes de l'Ancien Testament ont élaboré sur ce thème. Ils voyaient la coupe de colère se remplir jusqu'au bord. Dieu est patient et donne toutes les occasions à l'homme de se repentir de son péché. Mais lorsque la coupe était pleine, Dieu la pressait sur les lèvres d'une société qui s'était éloignée de lui. Les hommes rebelles remplissaient eux-mêmes cette coupe de leurs iniquités jusqu'au moment du jugement. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre. C'est ce que nous dit le texte de l'Apocalypse. Il ne s'agit pas littéralement de feu et de soufre. Ce symbole est souvent utilisé dans l'Ancien Testament, entre autres dans le psaume 11, verset 6. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. En fait, la réalité est pire que le symbole du feu et du soufre. Ceux-ci ne donnent qu'une faible représentation de cette réalité. C'est comme une odeur de parfum. Cette odeur que le parfum laisse dans la bouteille quand elle est vide. Un symbole est comme cette odeur, ou une faible reproduction de la réalité qu'il représente. Cette réalité peut éventuellement devenir encore bien pire que l'indication donnée par le symbole. D'un autre côté, le feu et le soufre qui sont tombés sur Sodome étaient tout à fait littéraux. Nous devrions tous réfléchir là-dessus, avant de rejeter la possibilité d'un enfer littéral. On remarque aussi, dans ce passage, que la terre est visible aux yeux de Jésus-Christ et de ses anges. Par contre, il ne mentionne pas qu'elle est visible aux yeux des 24 vieillards. Devons-nous alors assumer que l'Église, représentée par les vieillards, ignore les événements se déroulant alors sur la terre? Je suis enclin à penser que l'Église ne pourra pas voir du ciel les tourments des habitants de la terre pendant la grande tribulation. Mais le Seigneur et ses anges les verront certainement. Tout ce que les élus restés sur terre peuvent faire pendant cette période est d'attendre patiemment la venue de Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 13, notre Seigneur affirme « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Qu'est-ce qui lui permettra de persévérer? Le fait qu'il a été scellé par l'Esprit de Dieu et aussi qu'il est revêtu de la justice de Jésus-Christ. Il sera ultimement vainqueur par le sang de l'agneau. Le Seigneur nous encourage ainsi, cette fois dans l'Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 19. « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Nous pouvons seulement attendre que la tempête fasse son temps, tout comme le feront les élus vivants pendant la grande tribulation. Tu peux choisir aujourd'hui de quel côté tu seras dans l'éternité, du côté des méchants, des incrédules, des perdus ou du côté de ceux qui vivront avec Christ éternellement, dans son royaume, dans son paradis. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Apocalypse chapitre 14, les versets 13 à 18. À vous tous, bonne lecture!
Merci beaucoup, Régent. Mes amis, on a appris des tas de choses passionnantes aujourd'hui au sujet de la grande tribulation, des fausses religions et du jugement de Jésus-Christ. Et à travers toutes ces belles révélations, je me suis arrêté particulièrement sur des gens que Régent a mentionnés, sur ceux qui sont irréprochables. Et je peux vous dire avec joie que je fais partie de ceux-là. Mais attention, c'est loin d'être un sujet d'orgueil pour moi, mais ça concerne tous les croyants. Régent dit que ceux qui seront irréprochables lors de la grande tribulation seront ceux qui auront été revêtus de la justice de Jésus-Christ. Et Régent a ajouté que si l'on avait reçu personnellement Jésus comme notre Sauveur, on irait certainement au ciel et que ce ne serait pas à cause de nos bonnes actions. Alors voilà la description de tous les croyants d'aujourd'hui. Et je me joins à Régent pour dire que si ma place au ciel est prête, ce n'est pas parce que je suis une bonne personne, puisque je ne suis pas si bonne que ça. Non, mes amis. Ce n'est pas à cause de mes mérites personnels, mais c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est à cause du sacrifice de Jésus sur la croix. Je suis une pécheresse sauvée par grâce. Savez-vous ce que c'est une grâce? C'est un cadeau, tout simplement, un cadeau qu'on ne mérite pas. Alors, mon ami, toi qui es peut-être une bonne personne, toi qui aimes aider tes voisins, tes amis, ta famille, toi qui te donnes dans un organisme à but non lucratif pour aider des gens dans le besoin, dans ton environnement ou quelque part dans un pays lointain, toi qui observes ta religion à la lettre, toi qui es fidèle à ton conjoint, à ta conjointe, ou toi qui souffres sur un lit d'hôpital, toi qui as été abandonné par tes proches, mon ami, peu importe qui tu es, tu ne peux pas mériter, tu ne peux pas gagner ton ciel. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Alors, mon ami, reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse. Reconnais que Jésus est le seul qui est venu sur cette terre sans jamais pécher. La Bible dit dans le 5e chapitre de la 2e épître aux Corinthiens, au verset 21, que Jésus, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mes amis, Jésus s'est laissé crucifier, comme s'il était lui-même un grand pécheur, afin de prendre la condamnation qu'on mérite tous pour nos péchés. Jésus, Dieu fait homme, a payé la dette de nos péchés en entier. Et tout ce qu'on a à faire, c'est pas compliqué. Tout ce qu'on a à faire pour recevoir le pardon de nos péchés, le pardon total, c'est de croire en lui seul pour ce pardon. Mon ami, repens-toi. La repentance, c'est un changement de cœur à l'égard du péché qui fait qu'on veut s'en détourner. Alors je t'invite à tourner tes regards vers Jésus maintenant, celui qui veut te sauver, celui qui a payé le prix. Et demande-lui tout simplement de te sauver, de te donner la vie éternelle. Ses bras sont grands ouverts pour toi. Accepte ce don gratuit. Tu ne sais même pas si tu vas vivre demain, si cette offre va être faite demain, mais elle t'est faite présentement. Alors laisse pas passer cette opportunité. Accepte Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Régent?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme Sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors, je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.